Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des dizaines de milliers de jeunes en grève scolaire pour interpeller les gouvernants insuffisamment impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les premiers rapatriements de Syrie d'orphelins de mères partis vivre en territoire contrôlé par l'organisation État islamique. Les références françaises de l'auteur du carnage qui a coûté la vie à 49 fidèles de deux mosquées de Nouvelle-Zélande. Et puis invité de ce journal, notre confrère du monde diplomatique, Akram Belkaïd, après une nouvelle journée de manifestations pacifiques dans toute l'Algérie pour, encore et toujours, demander la fin du régime. Dans la zone du naufrage du navire italien Grande America, les opérations de lutte anti-pollution ont commencé au large afin de minimiser autant que faire se peut l'impact des nappes de fioul sur le littoral atlantique, une catastrophe que vient percuter une houle qui forcit de semaine en semaine. C'est l'issue du mouvement mondial des grèves scolaires. La grève prend en France avec des dizaines de milliers de jeunes dans les rues ce vendredi. Véronique Rebeyrotte, vous avez suivi un défilé parisien dense.
Vous l'avez dit, grosse mobilisation des classes entières, hein, parfois qui ont séché les cours à Paris, en proche banlieue, forêt de pancartes, les calottes sont cuites aux arbres citoyens, moins de banques, plus de banquises, etc. etc. Mais aussi beaucoup d'angoisse parmi cette jeunesse qui a besoin de se serrer les coudes face à un avenir qu'elle imagine très sombre.
On va dire que si ces marches comme ça, ça nous permet de regagner un peu espoir en voyant qu'il y a des gens qui se mobilisent à côté. Et l'avenir est ultra noir comme le pétrole qui coule des soutes, en fait, juste quelle jolie métaphore. Mais si on ne se rassemble pas, en fait, c'est notre vie. En fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de futur, c'est un peu inconcevable.
Étienne, 12 ans, a eu besoin de la bénédiction de ses parents pour défiler. Lui aussi a besoin de surmonter le moral.
En fait, j'étais souvent stressée parce que j'avais un prof d'histoire géo assez dans la cause et qui parlait beaucoup de l'écologie et aussi par les médias avec Trump et l'extrême droite au Brésil, des choses comme ça. Donc j'étais inquiète. Et du coup, là, maintenant que je sais qu'il y a des solutions comme la manifestation, mais, du coup, j'y vais, je manifeste.
C'est rassuré un peu.
Je manifeste.
Tu dis que ça va marcher.
Oui, j'espère.
Grosse colère pour Lola, 14 ans. L'invitation du ministre de l'Éducation à débattre aujourd'hui en classe, pile au moment de la manifestation des jeunes. Lola est vraiment très remontée.
Ces débats-là ne sont organisés comme par hasard que le jour où il y a une manifestation, alors que dans toute ma scolarité, je n'ai jamais été éduquée là-dessus. On n'a jamais parlé de ces conséquences-là de manière concrète. C'était seulement des gestes pour nous. Essayer de nous dire de devenir un bon citoyen, de jeter ses papiers, d'éteindre la lumière. Mais on n'a jamais parlé des déchets, des tonnes d'eau qui sont utilisées par les grandes entreprises, qui sont ensuite rejetées, des personnes qui sont exploitées, des personnes qu'on refuse, qui sont des réfugiés climatiques par exemple. Ça, dommage, c'est donc je viens ici pour peut-être avoir un impact et pour peut-être faire comprendre aux écoles et au gouvernement qu'il faut faire quelque chose et que la génération qui est ici, éduquée ou non, a envie de faire bouger les choses.
Alors beaucoup de primo-manifestants aujourd'hui parmi ces jeunes, mais ils ont promis de manifester peut-être maintenant tous les vendredis.
L'écologie politique au tableau noir dans un peu plus de deux mois à la faveur des élections européennes. Deux candidatures officialisées aujourd'hui. Celle de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, seule candidate pour mener la liste La République en marche le 26 mai prochain. Et celle de Raphaël Glucksmann à la tête d'une liste qui, selon l'essayiste, devrait recevoir le soutien du Parti Socialiste. Le PS réunit demain un Conseil national qui s'annonce tempétueux. Ce soir, Stéphane Le Foll quitte le bureau national du parti. Une grande maraude solidaire dans le Briançonnais. Quelques 300 personnes ont arpenté les environs du col de Montgenèvre pour témoigner de leur solidarité aux réfugiés empruntant ces itinéraires de montagne et dénoncer la répression contre celles et ceux qui leur portent secours. 5 enfants de djihadistes partis en Syrie ont été rapatriés du nord-est syrien. Ils étaient pris en charge par des familles de réfugiés dans des camps en danger de mort quand ils ne souffrent pas de blessures de guerre. Sophie Parmentier, si ces enfants étaient rapatriés, c'est que preuve est faite que leurs mères sont décédées.
Oui, en tout cas, c'est une précision qui a été donnée par le Quai d'Orsay tout à l'heure. Tous les enfants qui ont été rapatriés en tout début d'après-midi sont orphelins de mère au moins et leur père est soit présumé mort, soit il a été incarcéré après une arrestation par les forces kurdes. Alors, vous l'avez dit, ces enfants sont 5 à avoir été rapatriés sur le sol français. Il y a 3 petits frères orphelins pour lesquels les grands-parents lançaient des appels désespérés depuis plusieurs semaines. Et avec ces 3 petits orphelins, 2 fillettes qui n'ont pas de lien de parenté. Tous ces enfants enfants sont très petits, ils sont âgés en effet de 1 à 5 ans. Ce sont des militaires français qui sont allés les chercher, notamment dans le camp d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie, et ce sont les soldats qui les ont ramenés dans un avion militaire avec des médecins à bord. Les enfants qui ont atterri en tout début d'après-midi à Villacoublay vont maintenant passer des examens de santé approfondis, sachant qu'en effet, un de ces enfants au moins est sérieusement blessé au visage par des éclats d'obus. Nous sommes allés chercher ces enfants car ils étaient dans une situation très vulnérable, sans protection immédiate, sans parents, explique-t-on au Quai d'Orsay. Ces retours de cinq enfants sont l'exemple du cas par cas dont parle Emmanuel Macron depuis 18 mois, confirme un diplomate qui ajoute que d'autres retours d'enfants de djihadistes sont envisageables depuis la Syrie ou l'Irak, mais sans les parents. Et plusieurs avocats français et familles restent mobilisés pour le retour de tous les enfants, sans discrimination, sachant que plusieurs dizaines d'enfants sont encore dans les camps, dans des conditions sanitaires très très difficiles.
Le terroriste d'extrême droite imbibé d'idéologie suprémaciste qui a ouvert le feu dans deux mosquées néo-zélandaises et tué 49 fidèles a revendiqué ce carnage. Dans un texte, un manifeste, il emprunte à la théorie du grand remplacement, théorie du complot de l'extrême droite identitaire et explique l'impact sur sa trajectoire qu'a pu avoir la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017. Louise Baudet.
Oui, 73 pages et un titre glaçant, Le Grand Remplacement, référence à la théorie de l'écrivain français Renaud Camus sur la disparition des peuples européens, soi-disant remplacés par les immigrés. Thèse très populaire dans les milieux d'extrême droite, thèse reprise par cet homme qui dit s'appeler Brenton Tarrant, se décrit comme un homme blanc, ordinaire, issu de la classe ouvrière et revendique par anticipation une attaque anti-immigration. Son modèle, le chevalier justicier Breivik, cet extrémiste norvégien qui a tué il y a 8 ans 77 personnes en faisant exploser une bombe à Oslo puis en tirant sur des jeunes progressistes à Utøya. Breivik qui a lui aussi diffusé un manifeste de plus de 1500 pages appelant à suivre son exemple. Un modèle donc et une expérience dans une France prétendument envahie. Pour justifier son geste préparé pendant 2 ans, le tueur de Christchurch évoque une invasion de la France par les non-blancs qu'il aurait constaté lors d'un voyage au printemps 2017. Dans chaque ville française, écrit-il, les envahisseurs sont là. Moment clé de sa radicalisation, la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle et la mort d'une enfant de 11 ans dans une attaque au camion bélier en Suède la même année.
Louise Baudet, personne ne s'attendait à une action de ce genre en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on a sur ce point aussi, sur le choix des cibles, de premières explications ?
Alors, explication glaçante, là aussi, cibler la Nouvelle-Zélande lui permet, je cite, de démontrer que les envahisseurs sont sur toutes nos terres, même les plus éloignées. Éloignées de la violence, en tout cas, c'était l'image de cet archipel isolé d'Océanie, petit pays de 5 millions d'habitants, réputé comme l'un des plus sûrs au monde. 46 000 néo-zélandais sont de confession musulmane, soit 1% de la population, qui cohabite sans problème avec les autres communautés. Nous avons été attaqués parce que nous représentons la diversité, a d'ailleurs déclaré la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern après la tuerie. Nous sommes une nation fière d'avoir plus de 200 origines ethniques et 160 langues.
Louise Baudet, l'assaillant, un homme de nationalité australienne, âgé de 28 ans donc, qui a diffusé en direct sur les réseaux sociaux les images de ces attaques, doit comparaître demain devant un tribunal. Ce soir, à la question « Vit-on une recrudescence de l'idéologie suprémaciste blanche ?», Donald Trump répond que ce n'est pas une menace répandue. Le président américain, qui par ailleurs vient de poser son veto à la résolution du Congrès fédéral qui avait annulé la procédure d'urgence nationale décrétée pour débloquer des fonds, ces fonds destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Il est 22h et un peu plus de 9 minutes, vous écoutez le journal de France Culture. Oran, Constantine, Annaba, Alger. Impossible de dire combien d'Algériennes et d'Algériens ont défilé ce vendredi pour une 4e mobilisation de très grande ampleur, de nature à accentuer la pression sur le régime. Devant la grande poste d'Alger, vous direz ce slogan, vous faites semblant de nous comprendre, on fait semblant de vous écouter. Nous sommes comme convenu en ligne avec notre confrère du monde diplomatique, Akram Belkaïd. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Akram Belkaïd, les informations qui nous parviennent nous autorisent à dire que la contestation ne faiblit, mais pas du tout en Algérie.
Bien au contraire, la mobilisation est bien plus importante que le week-end dernier ou que le week-end précédent. Vous savez que le vendredi est le début du week-end en Algérie. Et pour aujourd'hui, beaucoup de gens ont convergé vers les grandes villes, mais aussi vers des villes moyennes. C'est assez spectaculaire.
Alors, 3 semaines déjà de contestation, de sursaut populaire, de réveil citoyen, et quelques figures peut-être qui émergent, ou c'est le peuple, et seulement le peuple, et tout le peuple qui est dans la rue ?
c'est d'abord le peuple, avec une espèce de refus implicite de structuration en attente de l'émergence de nouvelles figures. Mais on sent bien que pour la population, pour le moment, le plus important est le départ du régime. Donc c'est l'effet masse, c'est l'effet foule, c'est l'effet mouvement qui pour le moment compte le plus. Alors bien entendu, quelques figures émergent tout de même. On a au gré des réseaux sociaux, mais aussi des personnalités de la société civile qui ont des discours, je dirais, plutôt politiques, mais qui se gardent bien d'essayer de récupérer le mouvement et qui ne font que relayer les mots d'ordre de la foule, à savoir le refus de l'extension du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika et la fin, tout simplement, de ce régime.
Dans les colonnes du quotidien d'Oran, vous signez un texte dont le titre est le suivant, « La féodalité contre le peuple ». Et vous dites, le peuple est arrivé à un stade où il peut s'affranchir de la gangue qui l'enserre, mais vous ajoutez « tout est possible ». Que voulez-vous dire quand vous écrivez « tout est possible » ?
Je dis que tout est possible parce que malheureusement, nous avons affaire à un pouvoir et à un régime qui a toujours été capable du pire, qui temporise pour le moment, qui semble vouloir jouer la montre, qui feint d'écouter la revendication et qui ne propose rien d'autre que son propre maintien. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant dans la situation actuelle.
Alors, vous avez une autre interrogation, un autre questionnement. Vous dites « gare à la colère ».
Gare à la colère du peuple, parce que pour le moment, ce sont des manifestations pacifiques de gens qui ont pour obsession et pour mot d'ordre de mener un mouvement qui ne met pas en danger l'Algérie, qui ne débouche pas sur des violences, mais c'est aussi un mouvement qui, on sent bien que le régime multiplie de plus en plus les provocations. Alors, il ne s'agit pas de provocation sous forme de violence, mais l'attitude même du régime qui est une provocation. C'est-à-dire que vous avez des millions de gens dans la rue qui disent « on ne veut pas d'un cinquième mandat, on ne veut pas de ce régime ». Et la seule réponse qu'on lui donne, c'est de dire « eh bien, nous allons étendre le quatrième mandat et c'est nous qui allons mener ». Donc, je parle du régime, c'est le régime qui va mener la transition avec une conférence nationale assez obscure et aucune date de fixée pour de nouvelles élections. Les Algériens sont un peuple très patient, mais c'est aussi un peuple de tempérament. Je suis persuadé que c'est ce que cherche le pouvoir, ce qui pourrait lui permettre de réprimer facilement, mais je pense que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui en Algérie ne se rendent pas compte à quel point la colère populaire peut être dévastatrice pour ce régime.
Akram Belkaïd, vous avez couvert les émeutes d'octobre 1988. Est-ce que ça vous renvoie, d'une manière ou d'une autre, à ce que vous aviez pu observer et analyser à l'automne 88?
Alors, les circonstances sont assez différentes en cela que, à l'époque, c'est la jeunesse qui est sortie, mais la jeunesse est sortie seule, de manière violente, et la société algérienne avait été plutôt attentiste, plutôt pétrifiée devant cet incroyable déferlement de violence et de contre-violence, puisque très vite l'armée a repris les choses en main et que des jeunes ont été fauchés par les balles tirées par l'armée. Et ça a constitué, dans l'Algérie indépendante, l'Algérie à l'époque avait à peine 26 ans, ça a constitué un énorme traumatisme. Et à cette époque-là, la société a eu peur d'aller plus loin. C'est-à-dire que dès lors que le régime a proposé le multipartisme, la liberté de la presse, la liberté d'expression, qui étaient des acquis, hein, c'était quand même une rupture, mais la société n'a pas été plus loin dans ses revendications et elle a fait une erreur, à mon sens, très importante à cette époque-là. Elle a laissé le régime conduire lui-même la transition, ce fameux printemps algérien qui a débouché sur un dérapage en 1991-1992. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens ont gardé ça en tête et savent très bien que si, de nouveau, on laisse ce régime conduire une transition, un simili de transition, ça peut de nouveau aboutir au pire. Et ça, la société, aujourd'hui, en est bien consciente. Et c'est surtout la jeunesse qui en est consciente. C'est-à-dire que c'était une jeunesse qui paraissait apolitique, totalement étrangère aux enjeux politiques et qui se révèle à avoir une vision très très réaliste, très fine même des enjeux actuels qui concernent leur pays et leur société.
Merci à vous, Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots de la météo de demain pour refermer le journal. Temps plus calme et plus ensoleillé qu'aujourd'hui. Température minimale comprise au lever du jour entre 0 et 10 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, la technique Nicolas Gomard.